Radio Stable.
Morning Edition from NPR.
France Inter, le 18-20.
Si nous décidons de nous battre contre les talibans, je serai la première sur la ligne de front. Mais je pense que le peuple afghan a le droit de vivre en paix.
C'est compliqué pour une femme de militer pour que l'on parle aux talibans afin d'arriver à la paix en Afghanistan. Les femmes traitées, vous le savez, comme moins que rien par ces mêmes talibans. C'est ce dilemme que nous raconte Sonia Ghezali ce soir. Ce sera l'escale reportage d'un jour dans le monde. Sous les radars et Amélie Perrier, vous l'avez entendu, en Indonésie, à Londres et en Grèce. 18h50, le monde selon Trump et Grégory Phillips avec le lancement de campagne du plus intéressant des démocrates en ce moment, sans doute très brillant, très charmeur, premier candidat ouvertement gay à suivre à la trace. Et c'est ce que fait Grégory Phillips pour nous. 18h55, le monde à l'envers de Jean-Marc Four. Et s'il avait du sens, ce plan de paix en Israël du gendre de Donald Trump? Avant cela, je vous amène à Westeros. Le monde est vaste, on n'a qu'une heure. Bonsoir.
France Inter.
Winter is coming.
Fabienne Synthès. Un jour dans le monde.
Ouais, profitons-en parce qu'on va pas pouvoir s'amuser longtemps avec cette histoire-là. Maintenant que nous sommes un certain nombre à avoir passé une nuit écourtée ou interrompue par un épisode dont je ne vous parlerai pas donc, c'est à nous dans Un jour dans le monde de boucler la boucle de l'aventure de France Inter sur le trône de fer. En restant dans notre ligne, de quel monde nous parle Game of Thrones, ses régimes, ses dirigeants, les autocrates, les démocrates, les monarques en tout genre, le mur, le fameux mur, à quoi nous renvoie-t-il dans nos mondes, à nous, ce que l'on veut voir ou ne pas voir, justement, de l'autre côté du mur. Bonsoir à vous, Cédric Delaunay.
Bonsoir.
Vous êtes prof d'histoire à Tours, vous avez notamment écrit Game of Thrones, de l'histoire à la série, c'est publié aux éditions du Nouveau Monde. Alors on adore évidemment trouver des similitudes, on joue toujours à ça entre le monde aujourd'hui et les séries qu'on aime. On sait bien que George R.R. Martin a écrit ça il y a très très longtemps, en tout cas il y a pensé il y a très longtemps, mais est-ce que selon vous, Game of Thrones est un bon indicateur finalement de la géopolitique moderne? Est-ce que c'est un objet politique selon vous, cette série?
Alors plus qu'un représentant de la politique moderne, il faut bien voir que ça se réfère à un monde médiéval cohérent, pas réaliste, mais cohérent. Et on va voir qu'il y a des parallèles tout à fait intéressants à faire avec notre période contemporaine, mais il faut faire attention à ce que j'appelle le syndrome Schtroumpf.
C'est-à-dire?
Que n'a-t-on dit des Schtroumpfs? Qu'ils étaient racistes, qu'ils étaient communistes, qu'ils étaient nazis.
Qu'ils étaient bleus?
Qu'ils étaient bleus et qu'ils n'aimaient pas les Schtroumpfs noirs ou qu'ils n'aimaient pas la Schtroumpfette. Sauf que, c'est de la surinterprétation très subjective et très personnelle et très contemporaniste.
Et en même temps, est-ce que précisément il y a une différence là entre les livres et la série, où les livres peuvent se dédouaner totalement du monde contemporain, la série peut-être un peu moins, en fait?
Alors, effectivement, il y a une réinterprétation de la part des scénaristes de l'œuvre de Martin. L'œuvre de Martin est vraiment médiévale, alors que l'on sent bien que chez les scénaristes, il y a la volonté effectivement de mettre quelques petites pointes, mais justement, on va en reparler. Je pense que il faut y faire référence, mais ne pas totalement se laisser attrapé par la période contemporaine.
Alors, chaque dirigeant des fameux sept royaumes, de quel que soit le royaume dont on parle, en fait, est au fond, en tout cas moi c'est l'interprétation que j'en ai, à l'image d'une espèce de cynisme politique absolument terrible, puisque en gros chacun n'aime que la conquête et n'aime que régner. Il n'y a pas de peuple dans Game of Thrones. Est-ce que ça vous frappe pas aussi sur la manière de diriger aujourd'hui? Il n'y a pas de peuple dans cette série, en fait. Il n'y a que des gens qui courent après le pouvoir.
Oui, parce qu'on a une représentation qui est préliminaire du monde médiéval, c'est-à-dire qu'on a la noblesse, les dirigeants, et le peuple, il souffre, il est en bas et il souffre. Alors, comme le dit le proverbe Swahili, hein, que les éléphants se fassent la guerre ou se fassent l'amour, l'herbe souffre. Et ben là, c'est exactement le cas.
Donc les élites, en gros, telles qu'on les décrirait aujourd'hui, et puis dessous, qui même me suivent, qui
voilà.
Suit.
Voilà, et un peuple qui effectivement subit les dégâts collatéraux des luttes entre ces grands dirigeants.
Qui au fond a l'air de se soucier du bien commun, parce que on a l'impression là aussi d'avoir affaire uniquement à des régimes qui sont extrêmement autocratiques. Est-ce qu'il y en a un à sauver là-dedans qui semble-t-il se soucierait du bien commun et qui donc, si la démocratie existait, parce qu'elle n'existe dans aucun de ces mondes-là, serait finalement élu par son peuple?
Alors il y en a plusieurs. Alors il y a Daenerys, dont une partie de la légitimité repose sur le fait qu'elle est une quête, qu'elle ait un sens moral lié à l'abolition de l'esclavage. C'est-à-dire que son but, effectivement, c'est de détruire l'esclavage, sauf que l'on voit bien qu'une fois arrivée au pouvoir, elle est obligée de faire des compromis. Elle est obligée de rouvrir les fosses de combat, ça lui fait pas plaisir à l'évidence, mais elle est obligée de le faire pour conserver le pouvoir et éteindre la révolte des fils de Harkis.
Une espèce de fausse démocratie quand même, parce que si tu me suis, mais sinon je te tue.
Oui.
Donc c'est quand même un peu raide.
Le seul qui, enfin les deux seuls à mon sens, qui ont vraiment le sens de la Respublica, c'est deux personnages qui sont en retrait en fait et qui n'ont pas vertu à prendre le pouvoir. C'est d'un côté Varys. Un véritable Talleyrand, hein. Il franchit tous les régimes politiques, mais on voit bien que ce n'est pas pour un gain personnel, c'est véritablement pour sauver le bien commun. Et quand il s'adresse à Tyrion, le deuxième personnage, il lui dit quoi ? Il dit « un si petit homme peut avoir une très grande ombre ».
Mais c'est une espèce de spin doctor, comme on dirait aujourd'hui, en fait. Quelqu'un qui murmure à l'oreille des dirigeants. Au fond, c'est un visiteur du soir, d'une certaine façon.
C'est un visiteur du soir, et c'est un visiteur du soir qui a le sens de l'État. Ce qui est très rare dans la série, je le conçois.
Alors, comme vous dites, ouais, le personnage principal est celui qui nous fait plus, qui nous donne des références, on va dire, avec ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce fameux mur qui, d'ailleurs, je peux y aller puisque c'était la fin de la saison 7 qui est détruit à un moment, qui délimite en gros l'espace politique. Mais il délimite l'espace politique entre quoi et quoi, en fait. Qui sont les derrière ? Qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait, qui aujourd'hui nous parle, selon vous.
Alors, Martine a bien expliqué que la référence, c'est le mur d'Adrien, qui séparait en fait des peuples non romanisés, hein, des Lowlands et des Highlands, avec la province de Britannia, où on avait
avec
des peuples...
Avec l'Écosse.
Avec, voilà, c'est entre l'Écosse et l'Angleterre, en fait. Et bien sûr, on peut y voir... aujourd'hui, un parallèle avec d'autres murs, que ce soit le mur de Berlin, le mur construit en Israël, le mur envisagé par Donald Trump. Pourquoi ? Parce que vous avez la séparation de deux entités radicalement différentes d'un point de vue culturel, économique. Et dans la série, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est, si on la regarde en VO, ce sont les accents des personnages. Si on regarde les personnages de Westeros, alors ils ont des accents très oxfordiens, on parle dans un très bon anglais, alors que, et ce n'est pas innocent, les Sauvageons ont... des accents de prolo du nord de l'Angleterre. Et là, il y a véritablement un discours socialisant. Alors là, véritablement, ce sont les producteurs qui se sont fait plaisir et qui ont voulu mettre ce message-là.
Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire la civilisation d'un côté, qui sont ces sauvageons de l'autre, en fait ? Est-ce que ce sont nos migrants, aujourd'hui, qui cherchent à passer de l'autre côté, mais qu'on veut pas voir ? Est-ce que ce sont... c'est qui, en fait, ces gens ? Est-ce que ce sont les étrangers ?
Alors, pour moi, là, on tombe dans le domaine de la surinterprétation. C'est-à-dire que j'ai à peu près tout lu, à savoir la théorie du grand renouvellement, que
du, ça serait du grand remplacement, vous voulez dire ?
Voilà, du grand remplacement. Enfin, là, on surinterprète. On est vraiment dans la logique, hein. Et je crois que Martine, à plusieurs reprises, avait effectivement pris ses distances vis-à-vis de ses interprétations, en disant que c'était vraiment pour lui le mur d'Adrien, avec des peuples jugés inassimilables face. À la civilisation.
Et en même temps, c'est intéressant parce que c'est les seuls qui ne demandent pas le pouvoir, à aucun moment, en fait, ceux-là. Donc,
parce qu'ils sont incapables de s'organiser, sauf lorsque Mance Rider, quelqu'un justement qui vient du Sud, est capable de les unifier.
Il y a de l'autre côté du mur, il y a les fameux sauvageons, puis il y a les marcheurs blancs aussi.
Oui, plus inquiétant.
Alors voilà, beaucoup plus inquiétant. Et encore une fois, là, on se protège contre quoi, en fait, avec ce mur ? Est-ce que finalement, c'est contre les marcheurs qu'on se protège ? Est-ce que c'est contre les sauvageons ? Donc, est-ce que c'est contre quelle sorte de menace, en fait, on a en face de nous ? Est-ce que là, pour le coup, et pardon de faire une comparaison qui n'en est peut-être pas une, est-ce qu'on est plutôt chez Viktor Orban, en gros, ou est-ce qu'on est plutôt entre le Mexique et les États-Unis, ou est-ce qu'on est ?
Bah, les deux, parce que on a deux visions. En fait, pour les gens du Sud, les sauvageons sont à la fois véritablement un peuple inassimilable qu'on ne peut pas recueillir chez nous. Et on voit bien que tout ce qui est dit par la garde de nuit en disant mais on peut pas les faire passer parce qu'ils vont tous nous égorger, etc. Alors que ce n'est qu'une fraction infime de ces peuples dits libres qui effectivement représentent une véritable menace. Les Tènes, ils sont pas très rigolos.
Avec mais qui une forme d'autres religions peut-être. Enfin, c'est là aussi qu'on voit peut-être des similarités avec avec ce qui nous arrive aujourd'hui au fond, non ?
Oui, il y a ce parallèle là. Et certains effectivement voient que les marcheurs blancs sont une menace ultime. Alors certains effectivement ils voient les migrants, etc. Moi, j'avoue que je prends un peu de distance par rapport à ça.
Migrants, réfugiés climatiques. On a dit beaucoup de choses qu'on avait envie de. Mais en même temps, on est quand même beaucoup là-dedans, non ? Après tout, alors c'est pas le réchauffement, c'est la glaciation, mais au fond, ça dit plus ou moins la même chose. Est-ce que la métaphore est là, selon vous, ou pas ? Vous croyez que ça le gêne, Harar Martin ?
Ça le gêne, parce que véritablement, on est plutôt dans l'émigration du 5e siècle, lorsque les Huns pourchassaient les peuples qui voilà, qui était logé sur le Limès, et tous ces Germains en fait qui vont déferler sur l'Empire romain, parce qu'il y a une menace derrière elle, qui est une menace implacable, qui est celle des Huns, et donc ces Sauvageons, ils se retrouvent plus en fait dans les peuples du Sud que dans les Marcheurs Blancs. Et là, pareil.
Il y a autre chose, moi, qui me frappe et qui peut être démontée aussi par l'historien que vous êtes, c'est qu'au fond, on arrive à la fin à un affrontement qui est un affrontement entre le bien et le mal. Donc, c'est l'axe du mal contre l'axe du bien. Autant de vocabulaire qu'on a pu employer à une période, nous, dans notre propre histoire, et un terme qui peut envoyer des peuples à la guerre. Aussi, on est revenu, finalement, dans quelque chose d'extrêmement binaire, là où nous en sommes aujourd'hui.
Alors, sans faire du spoil de ce qui s'est passé ce matin, on voit bien qu'effectivement on est dans un combat de type croisade dans lequel toutes les forces du Sud vont en théorie se regrouper pour lutter contre les Marcheurs Blancs et l'Armée des Morts. Sauf qu'on voit très très vite qu'il y a quand même des tirages de maillots et que derrière la belle unité affichée se distingue des stratégie personnelle en se disant que c'est d'abord l'ennemi.
Personne n'est jamais tout à fait vertueux en fait, de toute façon.
Et c'est moins binaire et moins manichéen que ça.
Et ça revient à ce qu'on disait au début. Au fond, personne n'est réellement, aucun de ces dirigeants n'est réellement vertueux. Aucun de ces dirigeants n'a en tête le bien du peuple au fond à l'intérieur de.
Non, parce que je pense qu'on ne veut pas être vertueux pour diriger un régime qui est basé effectivement sur des formes d'autocratie. C'est pas possible.
Il y a autre chose qui nous a tous beaucoup occupés ces derniers jours quand on revenait sur la série, c'était le rôle des femmes. Et moi, je me suis demandé, justement, puisqu'on a beaucoup dit qu'à partir de la cinquième saison, ce qui est vrai, les femmes commencent à prendre un coffre, en fait, qu'elles n'avaient pas aujourd'hui. C'est le cas notamment d'un personnage comme Sansa, qui commence comme une pauvrette assez débile pour dire les choses et qui se mue en une espèce de dirigeante aujourd'hui. Est-ce que, là aussi, est-ce qu'il y a une espèce de dichotomie entre ce que nous dit la série et ce que nous disent les films pour coller à une histoire récente, en l'occurrence celle de Me Too par exemple, est-ce que les scénaristes sont poussés là-dessus, à votre avis, pour coller vraiment à l'histoire ?
Alors, effectivement, il y a un côté Me Too avec une revanche des femmes, parce qu'au début de la série, on est dans un monde effectivement très patriarcal, et ce patriarcat va s'effondrer sous le coup de la guerre, on va voir tous les dirigeants tomber les uns après les autres, et laisser de fait la place à des femmes dont, effectivement, l'ampleur va augmenter, notamment Sansa, hein, qui est une espèce de poupée de chiffon au début, et qui va devenir une femme. Cependant, là aussi, limite, est-ce que l'on a quelque chose qui ne touche et qui ne comprend que notre période contemporaine ? À l'évidence, non. On voit d'emblée que des personnes comme Cersei, effectivement, moi je l'ai assimilée à Catherine de Médicis, une espèce de veuve noire, capable effectivement de tout, alors de la Saint-Barthélemy ou de faire sauter le temple de Baylor, pour préserver le pouvoir de ses enfants. Le pouvoir des femmes n'est pas franchement quelque chose de radicalement nouveau. Des femmes chevaliers, ça existait. Alors bien sûr, Brienne en Jeanne d'Arc, mais aussi Asha Greyjoy, que l'on pourrait assimiler à des gens comme Jeanne la Hachette ou Jeanne de Flandre. On a déjà effectivement des femmes qui réussissent à faire craquer le vernis patriarcal et à prendre les devants.
Mais est-ce que là, précisément, la concordance dans le temps, en fait, du mouvement MeToo et de l'ampleur que prennent les femmes dans la série, est-ce que là, on sent des scénaristes qui sont obligés d'y aller, en gros, ou pas ?
Oui, parce qu'en fait, les romans collent à la série sur les quatre premières saisons. Et là, véritablement, on a un quasi copier-coller. À la cinquième saison, il y a déjà des écarts qui se font, et ensuite, Martin n'a pas écrit la suite. Donc, évidemment, que les producteurs soient effectivement en concordance avec l'actualité, ça semble évident.
Et comme ils le sont aussi dans... mais encore une fois, nous, ça nous aide de le coller comme ils le sont avec le fait que tout le monde s'allie pour faire la guerre alors que le vrai danger effectivement est ailleurs. Enfin, tout le monde s'allie parce que le vrai danger précisément est ailleurs. Et c'est là qu'on revient notamment au réchauffement climatique. Est-ce que ça ferait rire R.R. Martin qu'on ait ce genre de raisonnement-là ou pas ?
Oui, je pense que c'est de la surinterprétation. C'est-à-dire qu'en fait, chacun y voit ce qu'il a envie d'y voir. Alors, c'est peut-être justement la richesse d'une œuvre. C'est-à-dire qu'elle est tellement protéiforme, elle est tellement riche, que chacun y voit quelque chose de particulier.
Est-ce qu'on la relira pas différemment au regard de l'histoire, au fond, vous l'historien, dans 10 ans ? Est-ce que vous regarderez ces saisons différemment au fil de la manière dont l'histoire, la vraie histoire, notre histoire a évolué parallèlement ?
Oui, parce que forcément, toute œuvre s'inspire du temps où il a été créé. Que serait Tolkien sans Le Seigneur des Anneaux, sans la Seconde Guerre mondiale ? C'est évident qu'on a des parallèles. Ouais. Ça inspire, ça nous pétrit. Nous sommes le fruit d'une culture ancienne, des événements présents, et donc forcément, tout ça finit par se mélanger.
Voilà, vous verrez qu'on mettra donc un visage derrière chacun des personnages et on essaiera de voir qui est Trump, qui est je ne sais qui et qui sont les autres. Merci beaucoup, Cédric Delaunay. Merci. Merci mille fois de votre passage dans Un jour dans le monde.
France Inter. Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Allez, la suite, ça se passe en Afghanistan où les femmes, tiens, sont divisées. Faut-il participer au pourparlers de paix avec les talibans dont personne n'ignore comment ils traitaient précisément les femmes sous les radars? Et Amélie Perry avec un restaurant qui s'appelle le Chachanceux à Londres. Et ben, le Lucky Cat et son chef très très connu s'est cassé la figure au premier pas. La photo chat sûrement. Le Monde selon Trump, saison 3. Et Grégory Philips, bonsoir Grégory.
Bonsoir Fabienne.
Alors vous avez croisé, vous allez nous raconter le fameux phénomène de Pete Buttigieg, l'homme qui a un nom très bizarre, mais gros. Grosse coach chez les démocrates.
Oui, candidat à l'investiture démocrate et donc à la Maison Blanche, personnage atypique. Il a 37 ans, il parle 8 langues, il a un nom de famille imprononçable. Mais oui, il fait un très bon début de campagne.
Allez, on voit ça ensemble dans un instant. Le Monde à l'envers, Jean-Marc Four. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Le plan de paix du gendre de Trump en Israël et s'il avait une chance d'aboutir, dites-moi.
Oui, ne soyons pas politiquement corrects. C'est peut-être une bonne idée, même si ce plan met par terre l'idée d'un État palestinien.
Allez, à tout de suite. Le tour de la planète n'est pas fini sur France Inter. Il passe par les États-Unis avec Norah Jones, version 2019, Wintertime. Tiens, on y retourne. Allez. I'm alone, but I feel alright in the summertime and the fall. In the spring, when the house is dark, doesn't bother me. Jones, Wintertime, sur France Inter et dans Un jour dans le monde.
France Inter.
Good evening and welcome.
Yerasmakiro Kapion.
Un jour dans le monde.
Interventia extra.
Amélie Perrier, le retour. Amélie, de curieux candidats dans notre tour du monde des élections.
Oui, la semaine dernière, on vous présentait Caius Jules César Mussolini, vous vous souvenez. Il était en lice pour les européennes en Italie. Aujourd'hui, direction l'Indonésie, où l'on va pouvoir voter pour Mikhail Gorbatchev. Alors, pas le dirigeant soviétique qui a mis fin à la guerre froide.
Di dalam lingkungan hidup itu, kita nggak bisa meniadakan misalnya.
Profesor Ce Mikhail Gorbatchev là, il a 32 ans, il est indonésien et candidat donc pour un siège de député. Les élections se tiennent après-demain. Si vous avez fait le calcul, il est né en 86, au moment où son homonyme illustre venait de lancer la perestroïka, les réformes pour moderniser l'URSS. Mais son nom n'est pas tant que ça un hommage. En fait, le trentenaire indonésien raconte que ses parents étaient certains d'avoir une fille. Alors quand il est né, ils ont paniqué, n'ont rien pu décider pendant
du coup,
une semaine. Et dans le journal, finalement, ils ont vu ce Mikhaïl Gorbatchev qui avait l'air sympa. Mon père a pensé que c'était un nom cool, dit Mikhaïl Gorbatchev aujourd'hui. Lui avoue qu'à l'adolescence, il a un petit peu souffert. Il préférait son surnom Gorba. Sauf qu'aujourd'hui, ce curieux baptême, eh bien, lui vaut une renommée bien utile en politique pour se démarquer dans ces élections monstres. Plus de 190 millions d'électeurs vont devoir départager 245 000 candidats. Oui, 245 000 candidats en tout pour élire donc le président, les élus au Parlement national et au Parlement régional.
Et c'est vrai que quand ils sont 245 000, autant voir un oncle, les gens retiennent. Bravo à Mikhaïl Gorbatchev. Allez, cauchemar en cuisine pour le très médiatique Gordon Ramsay.
Vous savez, c'est le chef cuisinier écossais Tignasse Blonde en bataille à l'origine de ce programme télé.
I've got just 7 days to transform the food and banish the bullshit.
You know the oven's not even hot enough to roast a potato. We can't even cook a fucking burger in there.
But the staff. On va pas vous traduire, hein. C'est plein de gros mots. Le chef a 7 jours pour remettre à flanc un resto au bord de la faillite. Le programme a été adapté en France. Mais là, le cauchemar de Gordon Ramsay concerne sa propre adresse. Son tout nouvel établissement à Londres, dans le quartier de Mayfair, The Lucky Cat, un restaurant qui se veut, je le cite, une authentique maison gastronomique asiatique, avec un salon animé le soir inspiré des antres mystérieuses de Tokyo et de l'extrême-orient des années 30. Et ça n'a pas du tout convaincu une critique gastronomique, Angela Hui, car à l'inauguration la semaine dernière, elle s'est retrouvée la seule personne d'origine asiatique dans la salle. Davantage une boîte de nuit minable, dit-elle, qu'une authentique maison asiatique. Ce qui l'a choqué aussi, c'est l'amalgame entre différentes cultures asiatiques. Japonais, chinois, tout ça c'est de l'asiatique, on s'en fiche, ironise-t-elle. Et comme d'autres critiques, elle souligne qu'il n'y a aucun chef asiatique en cuisine. À la tête de la brigade Ben Hopwood. Il a passé plusieurs mois en Asie du Sud, affirme Gordon Ramsay. Le problème ici, c'est l'appropriation culturelle maladroite d'un chef britannique. Pourquoi mettre en avant l'authenticité, lui reprochent d'autres chefs. Ramsay aurait dû parler peut-être plus d'inspiration asiatique, d'interprétation asiatique. Voilà, quand les questions d'identité gâchent aussi une bonne assiette.
Et puis, Amélie, toute autre chose, et c'est peut-être un peu le rêve de tout archéologue amateur.
Et peut-être aussi une idée de vacances pour cet été. Je vous emmène dans les Sporades, les îles grecques, dans le nord de la mer. Car au large d'Alonissos, les autorités ouvrent l'un des tout premiers sites archéologiques sous-marins aux visiteurs. Alors il faut savoir plonger avec des bouteilles pour partir à la découverte de l'épave antique de Peristera.
Η Ελλάδα αποκτά το πρώτο της υποθαλάσσιο αρχαιολογικό πάρκο. Το αρχαίο ναυάγιο της Περιστέρας έχει πάρει το όνομά του από το ομώνυμο ακατοίκητο νησάκι.
Les médias grecs ne boudent pas leur enthousiasme et nous font découvrir cette épave qui porte le nom de l'îlot inhabité tout près d'Alonissos. Une épave découverte il y a 40 ans par un pêcheur, elle date du 5e siècle avant notre ère et contient 3000 amphores, c'est peut-être la plus importante de la période classique. Le site a été ouvert le week-end dernier à des plongeurs pros et amateurs. C'est un projet pilote qui tient à cœur au ministre de la Culture, car dans les deux prochaines années, le gouvernement veut ouvrir d'autres grands sites sous-marins et en faire profiter l'économie des îles voisines. Jusque-là, Athènes craignait des pillages, des problèmes d'organisation, mais le ministère va présenter donc très vite une loi au Parlement pour réglementer tout ça, et ce serait dommage de gâcher un tel trésor.
Et c'est vrai. Merci beaucoup, Amélie Perrier, tous les jours dans Un jour dans le monde.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem,
Pékin. Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo.
Les routes France Inter.
C'est en Afghanistan que nous emmène l'escale reportage d'Un jour dans le monde ce soir, en Afghanistan où l'on négocie, vous le savez, entre Américains et Talibans. Bonsoir Sonia Ghezali.
Bonsoir.
Et Sonia, les femmes, des femmes, doivent participer aux négociations de paix, mais à Kaboul, elles sont divisées. Il y a celles qui militent en faveur des pourparlers et les autres qui s'y opposent fermement. Vous allez comprendre pourquoi, et c'est ce que vous nous racontez, Sonia.
Une femme sous une burqa bleue assise sur un drap blanc au milieu d'un groupe d'hommes subit les coups de ceinture de l'un d'eux. La vidéo aurait été prise récemment en territoire taliban. Elle est devenue virale sur les réseaux sociaux en Afghanistan. En regardant ces images, Fawzia Koufi porte sa main au front, secoue la tête, détourne les yeux. Elle se souvient de sa vie sous le régime taliban.
Ils m'ont empêchée de continuer mes études. Ils ont mis mon mari en prison où il est tombé malade, ce qui l'a tué quelque temps après. J'ai vu des milliers de femmes battues devant mes yeux juste parce qu'elles ne portaient pas de vêtements conformes aux valeurs des talibans. Si nous décidons de nous battre contre les talibans, je serai la première sur la ligne de front. Mais je pense que le peuple afghan a le droit de vivre en paix. En tant que politiciens, nous devons prendre les meilleures décisions pour notre pays.
La parlementaire a rencontré les insurgés à Moscou il y a 2 mois lors d'une réunion entre l'opposition afghane et des représentants des talibans. Elle a décidé de militer en faveur des pourparlers.
C'est important que nous, les femmes, soyons à la table des négociations, que nous défendions nos droits, que nous parlions à ceux qui ne pensent pas que nous soyons leurs égaux.
Leila Haidari ne partage pas cette opinion. La féministe est connue pour son engagement auprès des toxicomanes. Elle a par ailleurs un restaurant où hommes et femmes s'affichent ensemble buvant du thé en fumant le narguilé.
Selon l'idéologie des talibans, les femmes ne sont rien. Ils veulent supprimer les femmes de l'espace public et qu'elles restent à la maison. Je ne veux pas rester chez moi. Nous avons payé le prix fort pour la démocratie.
Des propos qu'elle réitère dans un clip vidéo qu'elle souhaite largement diffuser sur les réseaux sociaux avec une quinzaine d'autres femmes auprès d'elle. Contre les négociations avec les talibans, c'est son mot d'ordre, mais aussi celui de nombreuses de ses clientes et amies. Comme Soha, elle a 30 ans, travaille en pharmacie et étudie le droit à Kaboul.
Leila, moi, nos amis proches, nous sommes tous contre les négociations avec les talibans. Les talibans, c'est avant tout une idéologie. Ils n'ont pas changé. Ils ne veulent pas voir les femmes dans l'espace public. Et nous ne voulons pas perdre les progrès réalisés en presque 20 ans.
À ses côtés, Anya, qui travaille pour une ONG, c'est autour d'une chicha que les amis devisent sur les négociations avec les talibans.
Quand ils vont venir, je pense qu'ils ne tiendront pas leurs promesses. Parce qu'ils ne veulent pas voir des femmes dans l'espace public. Ils pensent que le gouvernement est le garant de cette société actuelle.
Ils ne reconnaissent pas ce gouvernement. Et ce n'est pas bon parce que ce gouvernement est un progrès pour les Afghans.
Est-ce que vous vous sentez libre ?
Bien sûr. Maintenant, nous sommes là. C'est la liberté. C'est la démocratie. Pour nous, c'est grâce au progrès réalisé que nous pouvons être ici aujourd'hui.
Bien sûr que nous pouvons aller à l'université. Nous pouvons travailler avec des hommes en étant égaux. Nous pouvons avoir les mêmes droits que les hommes.
All the rights that men also have, the women can have.
Nous ne sommes pas vraiment égaux, mais nous nous battons pour ça. Si les talibans reviennent, nous ne pourrons jamais espérer un jour avoir les mêmes droits.
C'est un progrès, mais nous avons besoin de temps pour que ça s'améliore. On a besoin de temps, le gouvernement a besoin de temps. Mais si les talibans reviennent, la première chose qu'ils feront est de supprimer le droit des femmes. C'est un fait, j'en suis sûre.
That's a fact. I believe it.
Une fois par semaine, les deux jeunes femmes retrouvent un groupe de militants opposés aux discussions avec les insurgés. Une mobilisation active alors que les prochaines discussions bilatérales entre les États-Unis et les talibans doivent avoir lieu fin avril.
Avril, c'est dans quelques jours. Sonia Ghezzali, merci beaucoup. On continue d'un jour dans le monde avec Joe Jackson. Cha-cha loco, s'il vous plaît.
The night. want to make sure you don't need. You can't go back, you booked the bed. So take your partner by the hand. Enjoy the food, so many courses. Enjoy the dance, they don't shoot horses.
Chaloco, nous dit Joe Jackson sur France Inter et Demain Jour dans le Monde.
France Inter.
I will work so hard.
Fabienne Synthès.
I promise you, it's going to change.
Un jour dans le monde.
Le Monde selon Trump, saison 3 avec Grégory Phillips. Grégory, vous êtes à Chicago parce que, au fond, on est peu de choses. Vous avez été coincé par une tempête de neige. C'est bête, hein, au mois d'avril.
Mi-avril.
Ouais, on expliquera d'ailleurs pourquoi vous êtes à Chicago et pourquoi vous êtes dans le Midwest. En tout cas, une chose d'abord, Grégory, si vous le voulez bien, c'est l'interview dont tout le monde parle en ce moment, celle de Nancy Pelosi, hier soir sur CBS.
Oui, Nancy Pelosi, troisième personnage de l'État ici, juste derrière le président et le vice-président, mais première opposante évidemment à Donald Trump depuis qu'elle est devenue ou redevenue plutôt la speaker de cette chambre des représentants à majorité démocrate. Nancy Pelosi, donc invitée hier soir de l'émission 60 Minutes sur CBS et qui a eu des mots très durs à l'égard de l'actuel locataire de la Maison-Blanche.
Comment je le décrirais ? Je pense qu'il se décrit lui-même chaque jour. Personne dans ce pays ne sait mieux que lui qu'il ne devrait pas être le président des États-Unis. Personne ne le sait mieux que Donald Trump. Mais je respecte sa fonction. Ça ne sert à rien de dire « Vous êtes tellement horrible qu'on ne peut pas travailler avec vous ». Non, il faut qu'on travaille ensemble.
Voilà, rarement Nancy Pelosi aura été aussi mordante à l'égard de Trump, qui évidemment a réagi quasi immédiatement sur Twitter en parlant de cette émission. Donald Trump écrit « Such a puff piece ». En clair, on lui a servi la soupe. Nancy, comme l'appelle Trump dans ses tweets, a perdu le contrôle de ses troupes au Congrès. Et là, le président fait allusion à la polémique du moment aux États-Unis avec cette représentante du Minnesota, Ilhan Omar, accusée d'avoir, dans un discours en mars, minimisé les attentats du 11 septembre 2001. Elle est musulmane. La Maison-Blanche a diffusé en fin de semaine dernière un montage vidéo qui mêlait les propos de l'élu démocrate aux images des tours jumelles en flammes. C'est le scandale du moment aux États-Unis, entretenu, c'est vrai, par les conservateurs, mais les démocrates aussi sont assez mal à l'aise.
Grégory, donc, vous êtes dans le nord des États-Unis parce que vous avez suivi hier dans l'Indiana le lancement de la campagne d'un monsieur qu'on appelle Mayor Pete. C'est comme ça qu'on le surnomme, sûrement parce qu'on n'arrive pas à prononcer son nom. D'ailleurs, c'est le maire de la ville de South Bend qui brigue donc l'investiture démocrate pour 2020 et pourquoi pas la Maison Blanche. Il a 37 ans, commence à bien le connaître, ce jeune homme, profil atypique. C'est sur lui que toutes les lumières en ce moment sont tournées. Et donc, je vous laisse prononcer son nom.
Allez, entraînez-vous avec moi une dernière fois. Pete Buttigieg.
Voilà, dit comme ça, c'est facile. Buttigieg. Le truc, c'est que ça s'écrit pas du tout comme ça.
Évidemment. Mais en tout cas, Pete Buttigieg, hier à South Bend, Indiana, a officiellement annoncé sa candidature à la Maison Blanche. Et même auprès de ses supporters, Fabienne, eh bien, au début du meeting, ses équipes faisaient répéter son nom de famille d'origine maltaise. Écoutez.
Buttigieg. Buttigieg. Buttigieg.
Voilà, Buttigieg, candidat atypique, mais très intéressant, maire donc de South Bend, Indiana, une ville de 100 000 habitants dans le Midwest qui était en déshérence et qu'il a redynamisé, diplômé de Harvard. Il a servi 7 mois en Afghanistan, il est gay, son mari Chasten Buttigieg était sur scène hier à ses côtés. C'est plutôt un centriste et il parle 8 langues, dont le dari et le norvégien. Et Mayor Pete, comme on l'appelle, vous avez raison, a accepté de nous dire quelques mots en français hier soir.
Le message, c'est qu'il faut concentrer au futur, que dans le futur, il faut penser du temps et que notre génération doit adresser ces problèmes. On ne peut pas adresser comme si ce sont des problèmes des autres.
Voilà, un français pas mauvais, je dois dire. Buttigieg, qui fait un bon début de campagne, hier inconnu. Aujourd'hui, les sondages le donnent à la troisième place dans l'état test de l'Iowa, derrière Sanders et Biden, qui ne s'est toujours pas déclaré, Fabienne. Buttigieg a levé 7 millions de dollars, ce qui est un très bon début, même si on est loin des 30 millions déjà récoltés par l'équipe Trump 2020. Les résultats ont été dévoilés tout à l'heure par l'équipe de campagne du président.
Voilà, en tout cas, un reportage complet sur ce Pete Buttigieg demain matin sur France Inter. Grâce à vous, à 7h15, ce sera le zoom de la rédaction. Alors, une toute dernière chose, Grégory, il y a au moins une chose qui met tout le monde d'accord, démocrate comme républicain, c'est un revenant, en quelque sorte, c'est Tiger Woods.
Oui, alors la victoire de Tiger Woods hier à Augusta, en vérité c'était ça, hein, l'info du week-end aux États-Unis, le grand retour du golfeur après 11 années d'absence et de polémique, salué par Obama, un symbole d'excellence, de courage et de détermination, a écrit l'ancien président, et salué par Trump aussi, j'aime les gens qui sont géniaux sous la pression, a dit l'actuel président, et là on entend bien l'allusion à ce qui se passe en ce moment à Washington, puisqu'on apprend ce soir, Fabienne, que le fameux rapport Mueller sur l'enquête russe, dont on avait jusqu'ici un résumé de 4 pages, sera rendu public intégralement jeudi matin ici aux États-Unis. Évidemment, tout le monde l'attend. Vous voyez, même quand on parle de golf, on revient assez rapidement à la politique politicienne de Washington.
Allez, tiens, ça vous donnera l'occasion de revenir dans Un jour dans le monde. Grégory, bon retour donc, une fois qu'on aura déblayé la neige devant vous. Merci beaucoup.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès. Sur France Inter.
Le Monde à l'envers et Jean Marfour. Jean-Marc, après la nouvelle victoire électorale de Benjamin Netanyahou, la probabilité augmente fortement que soit dévoilé rapidement le nouveau plan de paix américain sur le Proche-Orient. C'est en tout cas ce que disait le Washington Post hier soir. Beaucoup redoutent les conséquences de ce plan de paix qui pourrait être radical. Et donc, vous le regardez dans l'autre sens. Et si ce plan était une bonne idée, c'est votre monde à l'envers.
Oui, Donald Trump l'annonce déjà comme le deal du siècle. Et les fuites laissent penser que les États-Unis vont sortir du bois assez vite dès que le gouvernement Netanyahou aura été constitué. Ce plan préparé par Jared Kushner, le gendre de Trump, il prévoirait la fin de la solution à deux États, autrement dit le renoncement à la création d'un État palestinien. Si on est politiquement correct, on dit tout de suite très mauvaise idée. Alors on va essayer de ne pas être politiquement correct pour une raison toute simple. En fait, ce plan nous pend au nez, donc autant l'examiner posément. Premier constat, du point de vue de Trump, un tel projet serait logique et cohérent pour des tas de raisons. Le président américain voit en Benjamin Netanyahou un allié naturel, donc autant lui donner satisfaction en le laissant annexer les colonies israéliennes, voire l'ensemble de la Cisjordanie. Ajoutons que Trump est un adepte de la politique du fait accompli, on le sait, les colonies existent, donc autant les entériner. Et puis c'est aussi un pragmatique, il voit bien que les Palestiniens sont divisés et que les grands pays arabes du Golfe n'accordent plus à ce sujet la même importance que par le passé. Donc autant y aller franchement, après avoir reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël, après avoir validé l'occupation du plateau du Golan, finir le boulot en brisant le tabou de la solution à deux États.
Donc va pour la logique, hein, Jean-Marc, mais sur le fond, dire que c'est une bonne idée, c'est quand même autre chose.
Alors là encore, ça vaut le coup d'examiner l'hypothèse, parce que c'est un peu facile de rejeter ce plan a priori, au motif qu'il est l'œuvre d'un homme inexpérimenté, Jared Kushner, et qu'il va à l'encontre des repères internationaux fixés par l'ONU. Que dit Washington ? Qu'il faut justement changer de paradigme, parce que depuis les accords d'Oslo il y a 25 ans, ces repères sur la solution à deux États n'ont conduit qu'à des échecs. Et pardon de le dire, mais c'est la vérité. Il y a d'ailleurs quelque chose d'un peu convenu dans la tribune publiée aujourd'hui par 25 ex-dirigeants européens pour défendre le vieux plan de route à deux États, parce que le fait est que ce plan s'est englouti dans les sables mouvants. Ça va plus loin. Dans le projet Kouchner, Netanyahou sera évidemment le vainqueur symbolique, mais le Premier ministre israélien pourrait aussi saisir cette opportunité pour se poser en homme de paix. Ça peut paraître paradoxal, mais pas tant que ça, parce qu'il faut noter que Netanyahou n'est pas un va-t-en-guerre. Il a dérivé très à droite, ça c'est vrai. Il est soupçonné de corruption, c'est vrai aussi. Mais il n'a fait qu'une seule fois la guerre en 12 ans, ce qui est peu pour un dirigeant israélien. Côté palestinien, cette fois, il y aurait évidemment un renoncement politique gigantesque. Ne pas avoir d'État souverain, peut-être pas Al-Quds, Jérusalem comme capitale, mais il pourrait y avoir un tout autre pari, celui d'une autonomie forte avec un développement économique important pour la Cisjordanie, garanti par des dizaines de milliards de dollars d'investissements américains. C'est un pari osé, improbable, il mérite examen.
Un abandon de la solution à deux États quand même, Jean-Marc, c'est plutôt très risqué, non ?
Non, mais je vous l'accorde, tout le monde le pense, mais pas nécessairement pour les raisons que l'on croit. Encore une fois, le risque auquel on pense spontanément, c'est celui d'une nouvelle intifada, d'un nouveau conflit israélo-palestinien. Le risque existe, mais les plus grands dangers sont peut-être ailleurs. D'abord, pour faire avaliser un plan de paix de cet acabit, Washington aurait besoin d'un soutien arabe, en particulier de l'Arabie Saoudite. Et on peut faire confiance aux Saoudiens pour négocier leur appui au prix fort, des gros contrats, une aide à la guerre au Yémen dont on parlait aujourd'hui, etc. Pas forcément donc une bonne nouvelle. L'autre bénéficiaire pourrait être le grand rival de l'Arabie Saoudite, l'Iran, pour des raisons diamétralement opposées. Tous les partisans de l'État palestinien, donc adversaires du plan américain, pourraient se rallier à la bannière de Téhéran, qui pourrait ainsi accroître son influence à Gaza, au Liban, en Irak, en Syrie. Là encore, pas forcément une bonne nouvelle. On se résume, le plan américain tel qu'il se dessine n'est pas incohérent sur le sujet israélo-palestinien stricto sensu, mais il a toute la mauvaise idée quant aux effets en chaîne au Moyen-Orient. Si on était dans Game of Thrones, puisque c'est le thème du jour, on dirait attention à ne pas libérer des forces incontrôlables.
Jean Marfour, merci beaucoup. À demain dans Un jour dans le monde, le 18-20. La suite, comme tous les soirs, c'est le téléphone sonne avec un bonus ce soir. On reste ensemble pour commenter les déclarations d'Emmanuel Macron qui seront là à 20h pile. En attendant, c'est le journal de Yves Decamps jusqu'après ça.